Allô, allô, ici la Suède. C'est Pierre depuis Göteborg, la deuxième ville de Suède. Ce podcast, c'est tout ce que vous voulez savoir sur le modèle suédois, basé sur des échanges avec des Français qui vivent l'expérience de l'intérieur. Avec mes invités, on va essayer de déconstruire des mythes et rétablir quelques vérités. On va passer en revue les subtilités, les nuances et les paradoxes de ce modèle proche du nôtre, mais à la fois très éloigné sur certains aspects. Ça sera sous forme de discussions décontractées et tant qu'à faire, avec le sourire. Ni trop, ni trop peu. Comment parler de la Suède sans aborder le fameux concept du lagom ? Si je traite ces sujets parmi les premiers épisodes, c'est parce que le concept du lagom peut s'appliquer à tous les aspects de la société suédoise. Et que dans les nombreux épisodes qui vont suivre, on aura certainement affaire au lagom, sans forcément le mentionner ou même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je reçois Anne Toumieux. Elle est journaliste, mais surtout c'est l'autrice du livre « Le livre du lagom, l'art suédois du ni trop, ni trop peu ». Alors littéralement, il n'y a pas vraiment de traduction, mais ça pourrait se rapprocher de « avec modération, en équilibre, juste assez, optimal ou adapté ». Mais par contre, « suffisant » ou « moyen », ça convient pas vraiment, parce que ça suggère une sorte de privation ou de limitation, et c'est pas du tout le concept. Vous l'avez compris, en français, le « lagom » n'est pas évident à définir ou à résumer. Et en fait, les Suédois eux-mêmes ont du mal. Mais quand même, je trouve que dans son livre, Anne a bien réussi à saisir les subtilités et les nuances. Et elle nous partage ça avec enthousiasme et avec le sourire, et c'est super agréable. On a parlé de créativité, d'humilité, de retraite, du respect de l'enfance, de la sobriété et évidemment du fika. Bref, on a discuté lagom, ni trop, ni trop peu. Cet épisode fait partie des premiers épisodes d'une longue série, j'espère. L'idée, c'est de collecter des témoignages et des expériences. Chaque épisode sera un point de vue à un instant donné et mis bout à bout, ça nous apportera des pistes et des clés de compréhension pour comprendre plus en détail et plus en nuance le modèle suédois. Et si vous voulez vous imprégner un peu plus de la Suède, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le compte s'appelle, comme le podcast, ici, la Suède. S'il y a des sujets pertinents ou des invités qui vous paraissent intéressants, je suis toujours preneur, même si je peux vous dire que la wishlist des invités est déjà bien garnie. Dans tous les cas, je suis toujours partant pour discuter avec vous. Maintenant, place à l'épisode. Salut Anne, merci beaucoup d'être dispo aujourd'hui. Comment tu te sens ?
Bah écoute, je me sens très bien.
Ouais, cool. Tu sais quoi, pour la petite histoire, ce livre, quand j'ai commencé en fait à préparer le podcast sur la Suède au sens large, le lagom, clairement, c'était un sujet qui était tout en haut de la liste. Et je me suis rappelé que c'était un cadeau que j'avais fait à mes parents pour qu'ils comprennent, qu'ils saisissent un peu la culture suédoise. Donc je leur ai demandé de me le monter en Suède, là ils étaient là le week-end dernier, donc j'ai ton livre dans les mains. Et voilà, pour la petite histoire, c'est drôle. Comme c'était ton nom sur la couverture, je me suis dit, il me faut Anne directement.
Oh là là, j'adore. Mais alors attends, il faut quand même préciser aux gens qui nous écoutent que tu es en Suède et que moi, je suis en France actuellement.
C'est ça, la magie de l'informatique. Non sans galère, mais on arrive. Ouais.
Mais oui.
Bon,
oui.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ta façon de voir les choses et aussi ta façon de te positionner ? Parce que sur Instagram, je te suis depuis un petit moment. Et j'ai l'impression que tu n'es pas quelqu'un qui reste dans la neutralité.
Qui reste dans la neutralité, oui, non, c'est sûr. Et pas dans une seule case, je dois bien l'admettre. Donc, je m'appelle Anne, je suis journaliste. On va dire que c'est mon occupation principale, sachant qu'en tant que journaliste, j'écris à la fois des articles, principalement autour de la beauté, parce que c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans, mais depuis plusieurs années aussi autour de l'écologie, puisqu'en parallèle, toujours en tant que journaliste, j'ai commencé à écrire des livres, donc initialement également issus de la beauté, qui est un peu dérivé vers le bien-être, puis vers le lifestyle. Du lifestyle, on est rapidement arrivé à l'écologie, puisqu'aujourd'hui, l'écologie fait quand même partie intrinsèque de nos modes de vie, de nos modes de pensée, de nos réflexes et de nos préoccupations. Je reste journaliste, mais effectivement, j'ai... en dessous, plusieurs casquettes, dont celle de maman, ce qui n'est pas rien non plus. Et puis effectivement, sur Instagram, je me lâche et je gueule en permanence sur tout ce qui me révolte, tout en parlant de ma vie perso, voilà.
Ok, bah ouais. On va approfondir plus tard, mais en deux phrases, comment est-ce que tu définirais le lagom ?
Alors, le lagom, hein, j'ai jamais vraiment su si je le disais bien. C'est un mot, comme tu le sais, qui n'existe pas en français, hein, à proprement parler. Il se traduit par une expression. La plus proche, ce serait ni trop ni trop peu. On parle aussi du... Ça veut dire un peu moyen, mais l'art d'être moyen, le juste équilibre, c'est quelque chose qui est un peu induit. C'est-à-dire que ce n'est pas une quantité, ce n'est pas un jugement. C'est, on va dire, le bon sens appliqué à la manière dont on fait les choses qui doit être, en Suède, mesuré.
Ouais. Et d'ailleurs, même quand on demande la définition à un Suédois, bah, ils ont chacun leur propre définition, leurs propres critères, c'est hallucinant.
Ah bah, c'est encore, pour moi, encore mieux que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai interviewé des Suédoises et des Suédois pour le livre, ils étaient incapables de me dire vraiment ce que c'était, tellement ça coule dans leurs veines, tellement c'est dans leur ADN. Et ils ont été très nombreuses et nombreux à être surpris en me disant « mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire ? Qu'est-ce que je peux te dire ?» Parce qu'ils n'ont pas conscience, en fait, d'appliquer ce mode de vie qui, pour eux, est tout à fait naturel.
Ouais, ils sont infusés là-dedans depuis qu'ils sont tout petits, donc il n'y a pas de définition.
Exactement.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Et dans ta recherche, tout ça, il y a eu, j'imagine, des sources d'étonnement en première approche, quand tu as commencé à contacter, que ce soit des Suédois, des Français, il y a des choses qui t'ont marqué ?
Ah oui, alors c'est vrai que la rédaction du livre date un peu, après son contenu est tout à fait universel et tout à fait d'actualité, mais une chose dont je me souviens qui m'a fortement frappée, c'est que j'ai écrit, le livre s'est fait très vite, j'ai écrit à plein de gens, en fait j'ai lancé des lignes on va dire, donc auprès de gens qui m'avaient été recommandés ou que j'avais trouvé sur Internet, dont je m'étais débrouillée pour avoir les emails. Donc, dans une journée, je me souviens, j'ai dû envoyer 20 emails comme ça. Eh ben, ils ont quasiment tous répondu très vite, tout en s'excusant de ne pas avoir répondu plus vite. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de considération et de politesse à laquelle, m'étant adressée pour mes ouvrages en général à des Français, les Français, ils ne te répondent pas, ils ne s'excusent pas, ou quand ils te répondent plus tard, ils ne s'excusent pas non plus, ou juste ils ne te répondent jamais, et c'est tout. Là, je me souviens, waouh, j'avais lancé plein de pistes et tout le monde m'a répondu, c'était assez surprenant, ouais.
Ouais, une belle introduction au lagom, en fait, finalement.
Oui, il y a de la politesse dans le lagom. Hein. C'est, ouais. Il y a une dimension sociétale, mais sociale aussi, oui.
Et tu as contacté des Suédois et des Français. Est-ce que tu as aussi noté des différences dès le début entre la France et la Suède, des façons d'aborder les choses ?
Alors, l'objectif, c'était de faire parler des Suédois, mais pas seulement pas seulement sur les différences entre la Suède et la France. Hein. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'aller chercher la substantifique moelle. Donc, l'idée initiale, c'est vraiment d'interviewer des Suédoises et des Suédois, Suédoises et Suédois, quoi, qui vivaient en Suède. Mais par la force des choses, j'ai pu aussi être amenée à en contacter qui sont en France. Et ça m'a permis, malgré tout, d'aborder ces différences qui, eux, leur ont sauté aux yeux immédiatement quand ils sont arrivés en France. Que ce soit, alors, parce que j'anticipe ta question, mais par exemple, dans l'éducation, le rapport des parents aux enfants est extrêmement différent en France dans Suède. Et puis, au travail également, hein, les rapports entre collègues, avec la hiérarchie, le présentéisme, tout ça, c'est des choses qui viennent tout de suite sur le tapis quand un Suédois arrive en France ou quand un Français arrive en Suède. Mais là, c'est moi qui devrais te poser la question.
Ouais, bah, ça fera de toute façon des épisodes. Là, on va contacter des Français. Il y a dans la liste, ouais. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un contact que je vais peut-être te piquer dans ton livre, que j'ai vu un Suédois qui bosse en France depuis des années et des années, qui est dans l'entreprise. Et le côté work-life balance, effectivement, c'est le grand écart entre la France et la Suède. Donc, ouais, c'est...
Toi qui es là-bas, par exemple, ça te frappe au quotidien ?
Ah bah oui, tu peux pas, c'est mal vu ou c'est presque même suspect de partir du bureau après 17h30 et le lendemain tes collègues ils vont te dire qu'est-ce qui se passe à la maison, pourquoi t'es resté tard hier, alors qu'en fait en France c'est la pause café quoi, c'est le milieu de l'après-midi à 17h, j'exagère.
Exactement.
Je pousse le trait évidemment, mais ouais bien sûr sur le...
Alors que ça ne veut pas dire non plus que les Suédois ne prennent pas de pause, au contraire, hein, parce qu'on peut pas faire cet épisode sans mentionner le fameux Fika, qui n'est pas le verlan de café mal prononcé, hein, je précise,
ouais.
Mais c'est le fameux café, on va dire, ça pourrait se résumer à un café gourmand un peu en France, où tu grignotes, tu manges, c'est convivial. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de pause, les Suédois.
Ouais, puis il ne faut pas faire le faux pas de refuser un Fika, parce que là, ça peut être perçu un peu...
Ah, c'est intéressant.
Ouais, c'est... Bon, après, c'est bien sûr, hein, c'est que des cas par cas, mais il y a une grande tendance qui se dit... quand c'est un fika, il faut y aller parce que c'est un moment de socialisation un peu. Ouais.
Est-ce que le fika suédois est un peu l'apéro français ?
En général, tu sors plus sobre quand même. Mais non, c'est plutôt dans l'après-midi. C'est un peu plus tôt que l'apéro. Si tu commences l'apéro à l'heure du fika, ouais, il faut une bonne occasion pour justifier ça. Ouais. Sur le lagom, sans aller trop loin dans le côté négatif, est-ce que tu as identifié des choses un peu moins sexy que ce qu'on peut lire dans les magazines sur le lifestyle du fika, tout est rose, tout est beau ?
Alors, si ça t'ennuie pas, moi, ce que je voudrais commencer par donner, c'est des exemples de lagom. Parce qu'avant de pouvoir donner des aspects négatifs, et il y en a, il faut bien comprendre ce que c'est. Je pense que, enfin bon, peut-être que les gens qui nous écoutent sont déjà initiés, mais dire que c'est l'art d'être moyen, concrètement, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas très bien à quoi ça ressemble. Donc, on a vu, effectivement, pas de présentéisme au bureau, d'accord. Mais en fait, il faut comprendre que c'est cette modération. Et la modération telle que moi, je l'ai découverte quand j'ai fait le livre, on m'a beaucoup dit, les Suédois, par exemple, ne vont surtout jamais vouloir avoir la plus grosse voiture ou la plus belle maison de la rue parce que c'est un peu vantard. Mais attention, ils ne veulent pas non plus la plus petite. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est pas un excès d'humilité, mais il faut pas se la raconter non plus. On va juste essayer de faire comme tout le monde. Et donc, ça s'applique à pas mal de choses pour le coup. C'est-à-dire que la manière de dépenser son argent, la manière dont on va parler avec ses amis, dont on va les recevoir, on va être vraiment dans la norme. Et comprendre ça, ça permet ensuite d'aller vers les points un peu plus négatifs. Une phrase qui permet de résumer un petit peu, puisque bon, on a vu, le lagom s'applique, enfin, on l'a vu, dans la cuisine, l'éducation, au bureau, enfin vraiment dans tous les aspects de la vie. Donc, on va peut-être pas les détailler tous ici et maintenant, il faut lire le livre. Mais en gros, on m'avait dit à Stockholm, quand tu regardes une foule, tu ne peux pas faire la différence entre une femme de ménage et un PDG. Alors, okay, j'imagine que c'est un peu extrême, mais c'est pour illustrer dans l'esprit des gens qui nous écoutent cette espèce de je sais pas, on pourrait dire normcore, tu vois, cette façon de s'habiller très polissée, tout est comme ça, ouaté, la déco, tout est assez lissé et vraiment voilà, unifié. Il n'y a pas d'énormes écarts. L'idée du lagom, visiblement, c'est vraiment d'être, de partir en vacances là où les autres partent en vacances, de prendre le même nombre de jours de congé, de faire comme les autres. Et là, ça m'amène à pouvoir te répondre sur les aspects négatifs, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de créateurs et créatrices que j'ai interviewés pour le livre, puisque dans le lagom, dans cette simplicité, il va y avoir un aspect écolo qui m'a amené à contacter des gens pour voir justement comment ils pouvaient créer de la mode ou des meubles avec l'upcycling ou le recyclage. Et là, en fait, quand tu parles à des gens qui créent, ils vont te dire que cette normalitude, cette façon de devoir toujours répondre à quelque chose de très moyen et de très modéré, pondéré, peut être pesant. Et que par la création, beaucoup de Suédoises et de Suédois ont pu trouver une manière de s'exprimer qui ne vienne pas justement choquer cette espèce de cohérence absolue qu'on leur demande, qui peut être visiblement assez pesante, puisqu'il ne faut pas sortir du lot. Et que c'est vrai que pour nous, latins, c'est compliqué à comprendre, puisque nous, on est parfois dans l'exubérance, on va privilégier l'individualité, le caractère, avoir un fort caractère, voilà. Là-bas, non, il faut pas, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, etc. Donc ça, visiblement, ça peut être pesant pour eux.
Ouais, et c'est drôle parce que c'est vrai que là, j'écoutais, on est deux Français qui essayons d'analyser ce lagom-là, et même avec nos mots, on est vraiment dans « il faut que », tu vois, c'est très des injonctions à la française. Et c'est vrai qu'on a peut-être sauté un peu rapidement sur les côtés négatifs, mais le lagom, c'est pas juste être médium ou être banal, en fait. Il y a tout un côté très sain dans le lagom, dans la société, oui. et très doux. Et c'est vrai que des fois, on a tendance, et c'est souvent ce que les magazines font des fois, à tout mettre à plat, à dire que tout. Alors, sur le côté que tous les Suédois se ressemblent au niveau du style, c'est vrai, ils aiment bien suivre les grandes tendances. Quand il y a une chaise qui va commencer à être design, ils vont tous l'avoir dans leur salon. Et ok, c'est le fonctionnement, c'est comme ça si on caricature. Mais je suis d'accord avec toi, la sobriété, plutôt que de dire le fait d'être banal, c'est le fait d'être sobre à la hauteur de tout le monde et puis de faire en sorte que tout le monde a sa part en quelque sorte.
Mais ce qui est marrant quand tu dis sobre, c'est que moi, du point de vue écolo, ça m'évoque immédiatement la sobriété énergétique, mais la sobriété dans le mode de vie. Et ça, je pense que justement, les Suédois ont également ça, cette considération pour la nature, cette considération pour ce qui les entoure, cette conscience dans le livre est aussi un peu analysée, puisque l'idée, c'est de dire que tous ces pays nordiques qui passaient des hivers, qui passent encore des hivers très très longs par le passé, ils dépendaient vraiment tous les uns des autres. On ne pouvait pas se permettre, en gros, de se fâcher avec ses voisins et, ou de tout bouffer les trois premiers jours de l'hiver, sinon on tenait pas le coup, et que donc il y a un respect de la nature, parce que quand on est au milieu, j'imagine, d'une tempête de neige par moins 15, on est bien humble en fait, ça ramène beaucoup d'humilité, et par ailleurs, qu'on a besoin les uns des autres, donc une certaine solidarité, une considération globale en fait. Donc moi j'ai beaucoup été confrontée à cette notion de conscience de l'environnement dans le livre. Et je ne sais pas si tu voulais le dire, mais il y a quand même un truc incroyable en Suède qui est le droit à la nature.
Vas-y, développe.
Bah oui, le droit à la nature, alors nous, ça nous paraît... alors les chasseurs chez nous se l'octroient, inutile de préciser ce que j'en pense. Je pense que ça s'entend déjà. Là-bas, le droit à la nature, c'est que tout le monde peut, dans la limite justement du respect pour le lieu où il se trouve, aller dans des jardins, dans des forêts. On a le droit de passer, de cueillir des fruits, si toutefois tout ça est fait en fait en bonne entente, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment un truc, un mélange de bon sens, de respect qui est assez du coup c'est pas inné, mais c'est de l'acquis, hein. Ça a été construit, mais il ne se pose pas la question. C'est ça que tu voulais dire.
C'est une approche différente par rapport au droit à la nature. C'est un truc drôle, mais quand tu le racontes à des Français, le premier réflexe des Français, c'est: ah, mais ça veut dire que je peux mettre ma tente dans le jardin du mec. Tu dis: mais légalement tu peux, mais qui fait ça? En fait, le Français va vouloir trouver la faille, comment aller cheater le système, alors que le Suédois, il va dire: ouais, j'ai accès à tout, mais justement ça me donne une ouverture hallucinante. Donc c'est drôle, ça.
Mais il faut respecter avec des choses, parce que c'est pas que du blabla, hein. Il y a des cartes interactives avec quand tu vas sur un site qui te montre toutes les poubelles. Par exemple, pour savoir où jeter ses déchets, enfin, je veux dire, en Suède, alors, faut pas non plus, tout n'est pas parfait, hein, y a certainement des Suédois qui jettent leur mégot de cigarette par terre, c'est mal, il faut pas le faire. Mais, globalement, c'est quand même très mal vu, donc il y a aussi c'est pas de la surveillance entre tout le monde, mais on a envie de montrer qu'on fait les choses bien. Il y a aussi ça dans ce lagom.
C'est ça, c'est un cercle vertueux. Si les autres le font bien, moi, je vais être amené à le faire bien. À l'inverse, si les autres font n'importe quoi, j'ai plus rien à perdre de faire n'importe quoi aussi. Mais ouais, c'est vrai. Après, c'est drôle, tout à l'heure, tu parlais de la sobriété énergétique. Et ça, c'est vraiment un paradoxe suédois. Parce qu'ils ne sont pas du tout sobres au niveau de la lumière, par exemple. Tout est allumé tout le temps.
Oui, mais ça, c'est une question de survie. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est hérité des Suédois qui se demandaient toutes les nuits si le soleil allait se relever le lendemain matin, parce que le matin, c'était pas très tôt le matin, quoi. Ouais. Il y a des jours qui sont très, très courts en Suède. Donc, je comprends
confirme.
Aussi. Et puis, il y a des fêtes qui tournent beaucoup autour de la lumière. Alors, ici aussi, hein, dans toutes les religions, les fêtes classiques célèbrent la lumière, puisque c'est quand même quelque chose de très viscéral. Mais effectivement... je pense que quand on se trouve sur un lac gelé au milieu de la nuit, on a vraiment très très envie que le soleil se lève.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Par rapport au lagom, si on revient un peu sur le concept, est-ce que tu penses qu'il est mal perçu en France? Je parle du vrai concept du lagom, pas du lagom marketing. Est-ce que tu penses qu'il est saisi de travers un peu?
Alors, c'est vraiment drôle que tu dises ça, parce que quand le livre est sorti, je dois dire que j'ai eu un accueil assez incroyable en presse. J'ai eu énormément d'articles. C'était la tendance, d'accord ? Donc, quand tu parles de lagom marketing, clairement, tout le monde avait envie de s'approprier un petit peu de ce truc-là qui est tout bonnement quelques pistes pour mieux vivre. Hein, en fait, c'est quand même du développement personnel que d'aller voir ce que les autres cultures font de bien et puis de s'en inspirer. Mais j'avais eu un article qui disait, enfin c'était assez court, mais c'était assez incisif. J'avais pas du tout mal pris parce que ça disait est-ce que c'est chiant d'être la gomme après avoir lu le livre de Anne Toumieux, j'ai envie de me faire un bon bain moussant avec une côte de bœuf. Et j'avais trouvé ça à la fois complètement con et drôle parce que définitivement, les Français ont du mal avec le lagom. C'est-à-dire que cette journaliste, elle ne pouvait pas juste simplement dire « Ah bah ça m'a donné envie de faire un petit excès, il fallait absolument… » Bah, en fait, elle est dans l'excès, dans le commentaire, quoi. C'était drôle. Et il y a comme une peur. Qu'est-ce qu'on pourrait nous enlever? Alors que précisément, il y a quand même, c'est une notion assez philosophique, cette affaire. C'est presque, enfin, en plus, c'est commun à plein de, ouais, même de religions, la voie du milieu, quoi. C'est-à-dire, ni à droite, ni à gauche, on va être dans l'espèce d'équilibre. La recherche de l'équilibre, c'est aussi la recherche du bonheur. Donc, peut-être mal compris parfois. Après, je pense que tout le monde est à la recherche d'une vie plus équilibrée, de se défaire d'un certain nombre de normes sociales extrêmes et écrasantes, et que le lagom, de ce point de vue-là, reste une référence qui est perfectible, hein, comme tout, mais qui fait envie, hein. Enfin, je trouve.
Ah bah c'est sûr. Et comme tu dis, il y a des effets secondaires, hein, forcément, mais c'est pas tout à copier-coller sur la société française. C'est des petits trucs à prendre, le meilleur, et puis on laisse à la limite l'historique, en fait, parce que la société suédoise, elle fonctionne avec ce concept depuis des générations en générations. On pourra pas, on peut pas dire aux Français du jour au lendemain, soyez comme ça depuis
c'est
vos aïeux.
C'est vraiment hérité de quelque chose qui est assez viscéral, animal presque, hein, pour certaines parties. Encore une fois, la nourriture, cette affaire de lumière, voilà, c'est vraiment le truc des hommes préhistoriques dans leur grotte. Voilà, donc on ne peut pas s'accaparer ça. On peut en hériter, on peut le vivre. En revanche, on peut essayer d'adopter une déco plus minimaliste, d'acheter et de consommer d'une manière générale moins mais mieux, parce que le lagom, on ne l'a pas encore dit, mais c'est beaucoup ça aussi comme expression pour le traduire, c'est moins mais mieux. Le rapport à l'argent aussi, et ça en plus c'est très actuel, parce qu'avec la crise écologique qui s'annonce, on a tous vraiment intérêt à revoir nos modes de consommation, tout simplement pour pouvoir continuer à se faire plaisir. Sinon, un jour, ça deviendra compliqué.
Ouais, encore une fois, la sobriété, je crois que c'est un peu un mot-clé. Hein. Ouais.
Ouais. Mais donc, ce n'est pas chiant. Ce n'est pas chiant et ça peut même rendre... Enfin, c'est l'objectif en tout cas. Ça peut même rendre plus heureux en étant content avec ce qu'on a. C'est un peu parfois ce qu'on dit aux enfants qui veulent toujours plus de jouets. Regarde déjà ce que tu as. Et puis même dans le développement personnel, on dit beaucoup ça. La gratitude. La gratitude, ça aussi, c'est un mot qu'on peut évoquer.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans un épisode que j'ai enregistré avec Émilie, elle est correspondante à Stockholm, elle est journaliste. On a discuté un peu du fait que la couverture médiatique sur la Suède était en train de changer. Toi, ton livre, tu l'as écrit en 2017, il me semble. Est-ce que tu penses que si tu devais le refaire, tu aurais des informations différentes? Est-ce que tu penses que ce que tu as pu percevoir de l'ADN du lagom il y a, ça fait quoi, 2017, ça fait 5 ans, est-ce que là, maintenant, ça changerait, tu penses?
Alors, je ne sais pas si moi, ma manière de l'écrire changerait. Ouais. Je ne sais pas si la manière dont on me demanderait de l'écrire, parce que l'éditeur, voilà, y a mille façons en fait de parler du lagom. On pourrait écrire un roman qui mettrait ça en scène. On pourrait, là, c'est un guide de développement personnel. C'est un guide pratique aussi, puisque voilà, c'était l'angle choisi que quand tu lis le livre, tu peux t'inspirer immédiatement de ce qui est dit. Je ne sais pas exactement à quoi tu fais allusion dans la couverture médiatique, mais ce que je vois, c'est qu'en tout cas, entre 2017 et aujourd'hui, la demande pour de l'inspiration pour aller mieux, pour vivre mieux, ne fléchit pas. Je ne veux pas aller sur la réforme des retraites, mais enfin, on n'a jamais autant parlé que du droit à vivre bien, notamment à la retraite, où d'un coup, on entend parler des grands-parents qui aimeraient instaurer une plus grande relation avec leurs petits-enfants, pouvoir les garder, de justement des seniors qui, une fois à la retraite, peuvent participer à des associations, avoir voyagé. Donc, c'est aussi ça. Donc, vivre, en tout cas, ça reste très actuel.
Ouais. En fait, je faisais même plutôt allusion, et c'est lié aussi un peu à la retraite, parce que j'ai cru comprendre que maintenant, la Suède était prise en contre-exemple. Si tu veux, il y a 5 ans, la Suède, c'était le premier de la classe. Et maintenant, on est en train de se dire, ah bah, nananer, en fait, c'était pas si bien que ça. Donc, on est en train de dire, ils font des enfants rois, leur retraite est pas bonne, finalement, ils sont tous trop timides, ils arrivent pas à s'épanouir. Enfin, tu vois, c'est ce shift-là que j'ai compris.
Alors, effectivement, oui, sur les retraites, on l'a entendu récemment, puisque je ne sais plus qui a déclaré, je sais pas, un ministre suédois, je crois, ne faites pas comme nous. En gros, c'était pas le bon exemple. Je pense que c'est discutable. Après, il faut le vivre. Donc, rendez-vous quand toi et moi, on sera à la retraite pour un nouvel épisode. Ouais. Mais en gros, si toute ta vie, enfin, tu vois bien l'idée, si tu trimes toute ta vie, que tu fais énormément de transport, que tu vois pas tes enfants, machin, évidemment, 2 années de plus, c'est encore 2 années de perdu pour toutes les choses dont je viens de parler. Ouais. Si toute ta vie, t'es en mode suédois, tu finis à 17h30, même quand t'es PDG, tu vas chercher tes enfants à l'école parce que c'est vraiment ça. Genre, si t'as une nounou, c'est pas bien perçu du tout. Ouais. Donc, et que les hommes font ça aussi et qu'ils passent pas à côté de leur vie parce que on se voit en famille, on se voit entre amis, on va se promener dans la forêt, on n'est pas complètement aliéné par un système par ailleurs coupé de la nature sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Eh bien, j'imagine que dans ces conditions, 2 ans de plus, c'est pas la même chose que quand tu n'as pas fait tout ça parce que justement, tu as été extrêmement aliéné par le système. Donc voilà, ça c'était pour la retraite. Ensuite, pour les enfants rois, mais encore une fois, il va nous falloir un nouveau podcast,
ouais,
pas juste un épisode.
Ouais, il y aura des podcasts là-dessus. Ouais.
Le problème en France, c'est la perception de ce qu'on va appeler l'éducation bienveillante. Qui est mal perçu. C'est un sujet, pour le coup, qui me touche énormément et dont je parle régulièrement, comme tu l'as dit sur mon compte Instagram, parce que les Français ne comprennent pas, mais au fond, je vais te dire, je pense qu'ils n'ont pas très envie de comprendre. Quand on a des habitudes éducatives qui sont mauvaises, mais qu'on a toujours fait comme ça, tu sais, je mets des guillemets, on les entend pas au micro, mais je vous le dis, des gros, gros guillemets, on a toujours fait comme ça, ils en sont pas morts, voilà. C'est bien difficile de s'en défaire et il est beaucoup plus facile d'aller critiquer les autres à côté que de se regarder en face. Personnellement, je préfère avoir un enfant roi, et encore le terme est complètement galvaudé, donc, mais c'est difficile en quelques minutes de résumer ça. Mais en gros, c'est peut-être compliqué d'avoir un enfant qui va rentrer moins vite dans des cases de règles sociétales qui sont celles des adultes. Comme en France, on attend d'un enfant de 6 ans d'avoir déjà les codes des adultes et d'y répondre. Alors qu'en Suède, puisqu'on est peut-être basé sur cette éducation bienveillante qui prend en compte le développement psycho-affectif et les neurosciences pour établir des programmes scolaires et pour établir le lien à l'enfant, effectivement, peut-être qu'en Suède, l'enfant va courir partout et que personne ne va rien lui dire. Ouais. Eh bien, je préfère ça que d'avoir 5 enfants qui sont tués par leurs parents, sous les coups de leurs parents, toutes les...
Ouais, trop souvent, clairement. Mais on pourrait parler des heures et des heures sur la parentalité bienveillante, et si tu me lances aussi, je suis parti. À côté, là, je suis en contact avec Marion Cuer qui a développé le concept du hauteur d'enfant à hauteur d'enfant. Et ça, j'espère vraiment que ça va aboutir sur un épisode parce que on peut pas parler de la Suède et de la parentalité ou de la pédagogie sans évoquer Marion Cuer, quoi.
Bien sûr. Juste pour c'est un enfant qui meurt tous les 5 jours en France sous les coups de ses parents. Voilà. Donc tu vois, pour moi en fait, il y a pas tellement de débat. Je préférerais toujours un enfant qu'en France on qualifiera de casse-pied qu'un enfant qui va être maltraité parce que les parents n'auront pas réussi à comprendre que finalement c'est pas être un enfant roi que d'être tout simplement un enfant vivant, c'est-à-dire qui est en proie et en prise avec des émotions, avec un cerveau immature, un développement psycho-affectif en construction, etc. Et que notre tolérance à l'enfant devrait être augmentée. Après, je pense que c'est un tout, que le système, bah, précisément, si tu fais les 3-8, que les salaires sont très bas, que le système de garde pour les enfants, puisque en Suède, il y a la place en crèche pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas en France. Enfin, en gros, si tu galères tout le temps, évidemment, ça va être bien plus compliqué d'être bienveillant envers ton enfant qui va te sembler être un poids par moment et pas un trésor, en fait.
Ouais. Je t'avais dit, j'avais senti que si on partait sur ce sujet-là, t'allais te positionner.
Ah, j'ai dérivé. Ne me lance pas.
Arrête-moi. Tu m'aides pas la tâche parce que j'avais prévu de parler des 5 trucs rigolos du Lagom. Et donc là, on va clairement dire sans transition parce que...
Bah si, c'est rigolo, il y a le jour des bonbons. Ça, c'est rigolo, tu vois.
Ça, c'est cool. Ça, c'est
non,
cool.
Non, mais fais-moi signe hein, pour les transitions, je les ai. Hein.
C'est clair. Dans ton livre, tu as listé, il y a une page, et je vais lire les 5 et tu vas réagir. On va voir comment... Okay. Et puis moi, je pourrais aussi partager un peu mon témoignage parce qu'il y a des sujets, là, tu as vraiment tapé dans le mille. C'est hyper drôle. En numéro 1, tu dis, ce sont les Suédoises qui proposent à l'homme de sortir avec elles et non l'inverse.
Ouais, il paraît. Tu confirmes ?
Alors, moi, j'ai toujours été en Suède en couple, mais c'est vrai que la French Touch marche beaucoup. C'est ce que je peux dire, effectivement.
Ah oui, d'accord.
En 2, c'est un Suédois ne prendra jamais la dernière part du gâteau. Et alors, et tu précises ouais. même, il va la diviser en plusieurs petits morceaux. Et c'est tellement vrai, en gros, quand il reste une part, celui d'après va prendre la moitié de la moitié, et puis la moitié de la moitié de la moitié, et ça s'arrête jamais, en fait, c'est le concept de la part sans fin, et c'est vrai. C'est...
Mais tu sais que c'est drôle, c'est que moi, spontanément, je le fais, et je pense que ça repose aussi sur... Moi, mon père me disait toujours un truc, tu vois les règles de bienséance, là, ouais. Nadine de Rothschild et tout ça, poète. Bon... Eh ben, on en dira ce qu'on en veut, mais si on va au bout du truc, ça repose toujours sur la considération de l'autre.
Oui.
Voilà. Donc, tu sais, quand on te dit que tu dois couper le fromage dans un certain sens, ben, en fait, c'est pour pas que la dernière personne ait uniquement la croûte.
Oui.
Tu vois, donc en fait, quand tu as été élevé, tout ça, c'est une histoire d'empathie et de conscience de l'autre et de... Voilà, donc, mais c'est marrant que tu dises que ça existe vraiment. Et du coup, comment ça se passe à la fin ? Prends-la. Non, vas-y, toi, prends-la. Non, mais il reste rien. Vas-y, prends-le.
Non, ça sera pas aussi direct. Ça sera, non, je sais pas vraiment. Mais ça, à la fin, ce qui se passe, bah, c'est qu'il reste une part qui va sécher dans le plat.
C'est le français qui la mange.
Ouais, c'est vrai en plus. Non, mais c'est drôle. En fait, c'est pas empiéter sur les autres, mais c'est aussi le pragmatisme scandinave. Tu vois, c'est que... Mmh. En France, tu vas avoir quelqu'un qui va prendre la tarte et qui va s'appliquer pendant 10 minutes à couper des parts vraiment égales, tu vois.
C'est vrai.
Et tu auras toujours quelqu'un qui va dire « Mais moi, je vais prendre une petite part. » Mais tu rigoles, ça fait 10 minutes que je m'applique à faire des parts exactes et toi, tu veux une petite part, elles sont toutes exactes. Alors qu'en Suède, chacun son tour, on va venir se servir. Donc, si j'ai faim, je prends une grande part. La personne d'après, elle prend le couteau, elle coupe sa part à sa taille. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, c'est drôle. Mmh. La gomme, exactement. Ouais. Numéro 3, les Suédois sont toujours gênés quand il s'agit de dire qu'ils sont bons en quelque chose. Alors, on a déjà un petit peu parlé de ça.
Ouais, bah, l'humilité est visiblement quelque chose qui encore une fois, fait partie des codes de politesse de base, en fait. C'est pas, on va pas dire, ah tiens, il est humble, ah, bah, t'as vu, il se la raconte pas, t'as vu, il est intelligent, mais on va pas louer ça, parce que c'est simplement, ça ne se fait pas de se mettre en avant. Je sais pas, tu... Non,
c'est vrai. Si on voulait pousser un peu le truc un peu plus loin, on pourrait mettre face à ça l'arrogance française. Si tu mets des Français et des Suédois autour de la table, quand on dit qui veut prendre ce projet ou qui est capable de gérer ça, les Français, ils vont bomber le torse, ils vont dire je le prends, et le Suédois, il va attendre qu'on vienne le chercher.
Et que va faire l'Italien ?
Ouais, bah alors ça... si on commence à mettre une troisième culture dans tout ça. Ouais, c'est intéressant. La plupart des Suédois sont contents de payer des impôts. Aïe.
Ouais. Alors, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un rapport à l'argent où c'est de payer ce qui est juste. Ça, c'est très la gomme, c'est-à-dire, alors c'est à la fois le juste prix, on va aimer, tu vois, quand je disais consommer moins mais mieux, on va peut-être préférer s'acheter, enfin on, les Suédois vont préférer s'acheter un vêtement de créateur pour lequel il y aura une traçabilité qui va coûter un peu plus cher mais qu'ils garderont comme une très belle pièce, voire un meuble ou faire refaire de manière coûteuse le meuble de leur grand-mère parce que c'est une sorte d'investissement affectif aussi de faire vivre une très belle pièce et ils seront contents que ça leur coûte de l'argent parce que c'est juste de rémunérer l'artisan ou le créateur ou la créatrice. Alors attends, j'anticipe à Oui, H&M est un fucking contre-exemple absolu. On est d'accord. Fin de parenthèse, puisque H&M est suédois et que...
Ouais, oui.
Voilà, il fallait quand même que je le case.
Je pense qu'il y a un ressenti aussi de comment est redépensé cet argent public. C'est vrai que les Suédois sont quand même dans assez satisfaits de comment c'est dépensé et une vision française en général va être un petit peu...
Oui, mais c'est parce que là-bas, l'État régit encore beaucoup de choses. Ça, c'est tout simplement politique. Hein. Moi, on me disait, il n'y a pas, je sais pas, un médecin, tu vas au centre médical du coin de la rue. Mm. Qui que tu sois, en fait.
C'est ça.
Évidemment, on imagine bien, en plus il y a quand même une famille royale, donc on imagine bien qu'il y a ça en fond, mais...
Ouais. Famille royale qui est très la gomme d'ailleurs, hein. C'est drôle parce que dans Stockholm, il y a des gens qui croisent la princesse faire son footing, quoi. Et ça, c'est pas des jets privés qui vont voter dans le sud, quoi. C'est clair. Dernier point, en entreprise, si un papa prend pas son congé paternité, il sera mal vu de ses collègues. Alors je suis d'accord. Et il y a un autre truc que tu rajoutes aussi, c'est que c'est mal vu de dire « je vais faire du babysitting avec mon enfant ». Et je suis d'accord, le poids des mots, ça compte. On ne va pas faire du babysitting, on va passer du temps avec son enfant pour l'aider à grandir. Et ils sont sensibles à ça, ouais.
C'est ça. Mais alors, tu vois, c'est ça aussi, quand on parlait tout à l'heure de cette histoire d'enfant roi, je suis désolée, tu viens de me tendre la perche, hein, mais parce qu'il y a une intelligence collective qui, je pense, est également héritée de ces temps dans le passé où encore une fois, l'intelligence collective, c'est un concept qu'on va retrouver en Suède, corrige-moi si je me trompe, mais dans, par exemple, la manière justement de gérer des projets en entreprise ensemble, tout comme le fait de ce que tu inculques aux enfants, tu sais que en fait, c'est ça qui va composer la société de demain. C'est des choses que nous, alors quand je dis nous, avec un, tout, enfin, les gens au sens large qui sommes intéressés par les justement les neurosciences, les sciences de l'éducation de l'enfant, etc. Je me mets dedans. Oui, moi j'ai conscience que mes enfants, c'est la société de demain, que les garçons, comme moi j'ai des filles, mais que des copines qui ont des petits garçons, les éduquer, c'est ça aussi qui va faire reculer le sexisme, etc. Et que, mais cette conscience-là, j'ai l'impression qu'en Suède, elle est plus grande parce que le pays a longtemps été dépendant de uniquement de lui-même. Hein, c'était pas, il y avait pas Internet, pas tout ça. Tu avais intérêt à être un peuple uni, soudé, fort et intelligent pour t'en sortir.
Mmh. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais quoi, Anne, le temps passe vite. On est déjà presque sur la fin de l'épisode. J'ai une grande nouvelle pour toi.
Tu vas m'envoyer un FICA depuis...
Alors, non, t'es officiellement ministre du Lagom en France et t'as une mesure à prendre et t'as open bar. Qu'est-ce que tu mets en place en tant que ministre du Lagom en France?
Aïe, j'étais pas préparée pour celle-là.
Ah ouais.
Il y a tellement de choses. Moi, je pète tout, je reconstruis tout. Je crois que ça ira directement sur l'école. C'est vraiment pour moi les enfants d'abord, parce que je crois que si on prenait le taureau par les cornes et qu'on gérait mieux l'école, la manière dont on dit les choses aux enfants, et puis si on éduquait les parents à être des parents. En quelques générations, il y a un très grand nombre de problèmes qui seraient améliorés. Et le problème, c'est qu'en France, pour l'instant, on ne met pas d'argent dans l'éducation. Quand tu vois qu'il y a des gamins qui se gèlent en classe, qu'il n'y a pas de place en crèche, que tout est compliqué pour les parents, tu ne peux pas être la gomme dans le reste de ta vie si ce qui compte le plus pour toi, c'est-à-dire tes enfants, représente quelque chose de compliqué. Il faudrait que les choses soient plus faciles. Il faudrait qu'on puisse avoir plus confiance en les institutions qui sont largement défaillantes à tellement de niveaux. Que ce soit la prise en charge des enfants victimes, enfin voilà. Pour moi, au niveau de l'enfance en France, il n'y a rien qui va. Je sais que c'est pessimiste, mais c'est une réalité à laquelle moi je suis confrontée tous les jours et pour laquelle je milite. C'est qu'il faut vraiment que les enfants passent en premier. Je vous jure, ça n'en fera pas des enfants rois, ça en fera juste des adultes heureux.
Ouais, c'est une belle conclusion.
Elle
est pas mal. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que du coup, tu as écrit le Lagom, je sais que tu as écrit... 40 questions, c'est quoi le titre de ton livre?
Dis, c'est vrai qu'on peut soigner la Terre. Oui, donc ça, c'est le dernier. C'est un livre. Alors, il y a eu J'arrête le plastique avant, qui était un guide pour réduire ou arrêter sa consommation de plastique en repensant justement tous les aspects de sa consommation au quotidien et voir tout, comment on peut remplacer le plastique. Puisque je le rappelle, hein, le recyclage, c'est bien, mais l'idéal, c'est de ne pas acheter de plastique à la base. Ça permet de, aussi d'économiser beaucoup de choses au niveau des déchets, du recyclage et tout ça, dont l'énergie. Et ensuite, porté par tout ça, effectivement, dans 10 et vrai qu'on peut soigner la terre, bah là, j'ai tout donné. Là, je peux te le dire. Ça aurait pu s'appeler petite bible familiale écologique à 360 degrés, un truc comme ça, parce que c'est ça, en fait, que j'ai voulu faire. C'est parler de tout ce dont il est possible de parler aujourd'hui. Alors, c'est un peu une brique, hein, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as lu, faut un petit moment pour digérer. Je pense que les gens le feuillettent. En revanche, ce qui a été mal compris avec ce livre, c'est que ce n'est pas un livre pour les enfants. Hein, on leur met pas forcément entre les mains, bon, sauf s'ils sont ados. C'est pas non plus un livre que les adultes lisent aux enfants. C'est un livre pour les adultes, pour qu'ils aient les mots pour parler d'écologie aux enfants et avec leurs enfants.
Ouais, c'est super.
C'était un livre sur la transmission. Ça, c'est compliqué au niveau marketing, quand tu as un livre comme ça, de le positionner. Hein, donc, c'est tout bête. Ce positionnement, il n'existe pas, puisque c'est un livre, effectivement, qui s'articule autour de 40 questions pour lesquelles j'ai à chaque fois apporté une réponse avec des mots pour les adultes, précises, pointues, et une réponse pour les enfants, tout aussi intelligible, mais à hauteur d'enfant, avec des mots, des images, que l'adulte aussi s'approprie ses réponses et puisse ensuite... en parler en famille, et puis un chapitre quand même sur les solutions à apporter pour soigner la terre.
Super, super. Écoute, merci beaucoup pour aujourd'hui.
Déjà.
Ouais, ça passe vite. Hein. Ouais, on en refera un à l'occasion.
Ni trop, ni trop peu, restons la gomme.
C'est ça, super.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, et puis longue vie à ce podcast.
Yes, prometteur. C'est le début, cool. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. De mon côté, je suis vraiment impatient de mettre en ligne les prochains épisodes. Comme vous l'avez compris, c'est le début de ce podcast et le meilleur moyen de l'aider à grandir, c'est d'aller sur votre plateforme d'écoute et de mettre 5 étoiles et un commentaire cool. Merci à vous. C'était Pierre depuis Göteborg dans le podcast Ici la Suède.